L'homme saisit son arme tandis qu'une sueur glacée coule dans son dos. Il est fait comme un rat, lui, Alexandre Stavisky, riche à millions, proche des hommes d'affaires les plus influents. Il entend plusieurs voix d'hommes, puis des coups sur la porte de sa chambre. On s'acharne sur la serrure. Stavisky se met à trembler pour la première fois de sa vie. D'une voix blanche, il parvient à articuler. « Qui va là ?» De l'autre côté de la porte, c'est l'euphorie. Enfin, Stavisky donne signe de vie. Le commissaire charpentier lance le traditionnel « Police, ouvrez, vous êtes cerné !» Mais il a à peine fermé la bouche qu'un coup de feu retentit. Les policiers et les gendarmes s'immobilisent. Qui a tiré? Vite, ils se mettent à l'abri. C'est le suspect qui leur tire dessus à travers la porte. Recroquevillé dans l'ombre, Charpentier intime à Stavisky de se rendre. Aucune réponse. Les policiers s'approchent de la porte et l'examinent. Aucun impact de balle. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre close? Le 15 décembre 1933, Maxime Sadron, contrôleur des finances pour le Trésor public, se présente au Crédit municipal de Bayonne pour vérifier les comptes. Il ne s'est pas annoncé. Dans ce genre de visite, c'est en venant à l'improviste qu'on fait recette. Le Crédit municipal, c'est ma tante. Enfin, c'est aussi ce qu'on appelle le Mont-de-Piété. C'est un organisme qui, à l'origine, dès le 15e siècle en Italie, prête de l'argent aux gens momentanément dans le besoin. On y dépose des objets plus ou moins précieux et en échange, l'organisme accorde un prêt en argent. Les objets déposés sont mis en gage jusqu'à ce que le déposant revienne les chercher. Souvenez-vous de l'infâme Thénardier dans Les Misérables de Victor Hugo qui met en gage au Mont-de-Piété le trousseau de la pauvre petite Cosette contre de l'argent. Pour bien comprendre l'escroquerie que Maxime Sadron est sur le point de découvrir, il faut que je vous explique en quelques mots le fonctionnement du Mont-de-Piété. Pour obtenir l'argent liquide qu'il remet à ses clients, le Mont-de-Piété émet des bons de caisse. Ces bons sont remis à une banque qui fournit le cash. Mais un jour ou l'autre, il faut la rembourser. En cette journée du 15 décembre, le directeur du Crédit municipal de Bayonne est absent. Mais Maxime Sadron s'installe à son bureau et farfouille. Il aime bien fouiner, Maxime Sadron. Surtout dans les établissements bancaires. Il y a toujours une ou deux manigances à découvrir. Les conséquences de ces découvertes du jour vont dépasser ses espérances et le faire entrer dans l'histoire. Il ne tarde pas à mettre la main sur un carnet d'émission de bons. 6 sont signés en blanc. Un bon signé en blanc sous le coude d'un directeur d'établissement bancaire, c'est comme un chèque en blanc. C'est illégal. Et c'est exactement ce que cherche notre receveur des finances. Il met bons et registres dans sa sacoche et s'en va examiner ça de plus près dans son bureau. Ça ne prend pas longtemps. Quelques jours plus tard, Gustave Tissier, directeur du Crédit municipal de Bayonne, est arrêté. Il avoue sans tarder un détournement de 240 millions de francs, une belle somme. Emprisonné, Gustave Tissier ne veut pas plonger seul. Il met en cause Joseph Garra, le député-maire de Bayonne, le commanditaire du détournement d'après Tissier. Puis il implique un homme d'affaires célèbre dans la région qui entre aussitôt dans le collimateur de la police, le richissime Monsieur Alexandre. Il s'agit de Serge Alexandre Stavisky. Et ce n'est pas un perdreau de l'année. Hein. 1m73, svelte, toujours rasé de près et gominé, c'est un homme d'affaires influent connu de tous. Il est à la tête de nombreuses sociétés. Il loge dans les beaux hôtels et mange dans les meilleurs restaurants. Il compte parmi ses relations, et même ses amis, un certain nombre de ministres et de parlementaires qui témoignent de son honorabilité. Oui, mais Monsieur Alexandre est aussi un type peu recommandable qui a amassé une petite fortune grâce à ses escroqueries. Il est, comme on dit, bien connu des services de police. Serge Alexandre Stavisky est né en 1886 en Russie. Il est arrivé en France en 1890 avec sa famille. Son père l'imagine médecin, mais lui préfère quitter l'école à 16 ans pour faire carrière dans le music hall. Malheureusement, il n'a pas le talent nécessaire. Il quitte la scène sans pour autant reprendre ses études. Il aime le champagne, les cabarets, les femmes et la vie frivole qui va avec. Pour s'assurer un tel train de vie, il se met à voler son père, puis à traficoter, même en temps de guerre. Et ça marche, parce que pour la roublardise, il a un vrai talent. Après l'armistice, l'argent coule à flot. Stavisky est devenu un maître de l'escroquerie. Il prend soin de se fabriquer un réseau de protecteurs jusque dans la police et la justice. Mais en 1926, la chance tourne. Il est emprisonné pour détournement, 6 millions de francs tout de même. Quand il sort de prison, il reprend sa vie légère et continue les arnaques, impliquant souvent des organismes et des hommes haut placés. Il crée des entreprises par dizaines. Dans leur conseil d'administration, il place des hommes au-dessus de tout soupçon. Des conseillers d'État, des fonctionnaires de police. Lui, il reste dans l'ombre. Enfin, pas quand il s'agit de flamber. Il part en vacances à Biarritz avec sa femme, Arlette et leurs deux enfants. Il dilapide ses gains au casino et ses luxueuses voitures éblouissent tout le monde. Il profite de son séjour sur la côte basque pour monter son chef-d'œuvre, le Crédit Municipal de Bayonne, qu'il crée de toutes pièces avec l'aide de personnalités locales et d'influents amis parisiens. Tout le monde se rue sur les bons de Bayonne, jusqu'au ministre du Travail et du Commerce, qui incite les compagnies d'assurance à investir. Monsieur Alexandre est l'homme d'affaires le plus influent du moment. La famille Stavisky s'installe sur les Champs-Élysées, définitivement plus chic que Biarritz, vous en conviendrez. Sans doute y aurait-il passé le reste de sa vie sans Maxime Sadron. Les déclarations de Tissier et le casier judiciaire de Stavisky suffisent pour que le juge d'instruction chargé de l'affaire du Crédit Municipal de Bayonne lance un mandat d'arrêt contre l'escroc russe. Car bien sûr, celui-ci a disparu à l'annonce de l'arrestation de Tissier. Sur les conseils de son avocat, il s'est réfugié en Savoie avec un ami escroc comme lui. Dans un premier temps, il s'installe dans une villa à Servoz, puis à Chamonix, au Vieux Logis. C'est un chalet assez éloigné du centre, sans voisins proches. Le type même du vieux chalet savoyard, avec une façade moitié pierre, moitié bois. La vue sur l'Aiguille du Midi, le Mont Blanc et les glaciers des Bossons et d'Argentière est superbe. Exactement ce qu'il faut à M. Alexandre. Mais l'escroquerie de Bayonne prend de l'ampleur et M. Alexandre se sent traqué. Il n'a pas tort. Sa photo est en une de tous les journaux et la police perquisitionne les sièges de toutes ces sociétés. Les escroqueries du beau mondain sont révélées et déjà on s'interroge. Comment cet homme a-t-il pu agir aussi longtemps en toute impunité? Il doit être protégé en haut lieu, très haut même. Début janvier 1934, trois policiers parisiens débarquent à Servoz. Il y a le commissaire Charpentier et les inspecteurs Legal et Girard. Ils se rendent dans la villa qu'on leur a indiquée, mais l'oiseau a quitté le nid. Ils enquêtent sur place, naviguant à l'aveugle sans beaucoup de succès. Ils savent que Stavisky est là, à Chamonix ou tout près. Mais où ? Alors qu'ils sont sur le point de plier bagages, un tuyau arrive de Paris. Stavisky s'est réfugié dans un chalet nommé le Vieux Logis. Les gendarmes commencent la surveillance. Peu avant 14h, le 8 janvier, le couple Farjas, qui vit avec Stavisky, quitte le Vieux Logis. Stavisky lui-même se replie dans sa chambre, tout volet clos, comme toujours quand il est seul. Il n'a pour tout mobilier qu'un vieux lit, une table, une chaise et une armoire. On est loin de l'hôtel Claridge des Champs-Élysées qu'il a hâte de retrouver. En attendant, il lit la presse pour savoir ce qu'on dit de lui. À ses côtés, il a posé son pistolet, dont il ne se sépare plus. Tout à coup, il dresse l'oreille. Il y a un bruit là, dehors. Stavisky s'assoit d'un bond, éteint la lumière et saisit son arme. Il entend des pas dans la neige qui longe le chalet. Plusieurs personnes, au moins quatre. Pas les Farjas donc. Voilà qu'on frappe. Ce sont Charpentier, Legal et Girard. Ils sont accompagnés de Chatou, le propriétaire du chalet, dont ils font le tour pour trouver une entrée. Chatou repère une fenêtre restée ouverte. Il va chercher une échelle dans une remise, y grimpe et enjambe la fenêtre. Puis de l'intérieur, il ouvre la porte aux policiers. A priori, il n'y a personne dans le chalet, sauf que la porte d'une des deux chambres est fermée à clé de l'intérieur. Les trois policiers et le propriétaire regardent la porte en silence. Charpentier tripote nerveusement dans sa poche le mandat d'arrêt contre Stavisky. Mais il n'enfonce pas la porte, une simple porte de bois, pour cueillir son suspect. Charpentier envoie ses acolytes inspecter le reste du chalet. En théorie, c'est très vite fait, puisqu'il ne reste que la cave et quelques mètres carrés. Mais Charpentier reste quand même 20 minutes seul devant la porte close. Ce qui se passe alors restera un mystère. Charpentier parlemente-t-il avec Stavisky ? Lui demande-t-il de se rendre ? De se suicider ? on ne saura jamais. Quand ces hommes remontent de la cave, il en place un en faction devant la porte et part en compagnie d'un gendarme téléphoné à la Sûreté Générale. Il a besoin des conseils d'un de ses supérieurs. La conversation est courte. Sur le chemin du retour vers le chalet, Charpentier croise un journaliste et lui dit « Ça y est, on le saute !» Voilà qui intéresse au plus haut point le journaliste qui emboîte le pas aux forces de l'ordre. Quand le coup de feu retentit dans la chambre de Stavisky, policiers et gendarmes se jettent sur la porte pour l'enfoncer. C'est peine perdue. L'un d'eux a l'idée de passer par la terrasse et d'enfoncer le volet de la porte-fenêtre qui, elle, ne résiste pas à leur assaut. Le gars brise le carreau, passe la main par le trou et fait jouer la serrure. La porte-fenêtre s'ouvre. Dans la chambre, l'obscurité est totale. Il faut se méfier. Le type peut être tapi dans l'ombre pour les tirer comme des lapins. Ils attendent. Rien ne se passe. Un signe de tête de Charpentier et le gars entre, arme au poing. Il voit d'abord un pyjama sur le lit. Puis, il entend des allaitements et un horrible gargouille. Il avance vers le lit qui lui cache la moitié de la pièce. Sur le plancher, dans la pénombre, il distingue des pieds. Il fait le tour du lit et découvre le corps tremblant d'un homme qui tient encore une arme à la main. Son sang coule par un trou à la tempe. Devant ce corps agonisant, Charpentier ne sait pas quoi faire. Ce n'est décidément pas un homme d'action. Il a besoin que sa hiérarchie lui donne des ordres. Quand le docteur Jamin arrive sur place, il est trop tard. Stavisky est plongé dans un coma dont il ne sortira jamais. Il déplace quand même le corps et lui glisse un oreiller sous la tête. Le moribond n'arrivera à l'hôpital de Chamonix qu'après 18 heures. Et le lendemain, 9 janvier 1934, à 3h50 du matin, Stavisky meurt à l'hôpital sans qu'on ait pu l'opérer. La photo de son cadavre sanglant s'affiche en une des journaux à scandale. L'annonce de sa mort retentit comme un coup de tonnerre. Aussitôt, on soupçonne la police de l'avoir assassiné. Cet homme-là en savait trop. Il ne devait en aucun cas parler. Mais jusqu'à quel point en savait-il trop ? Sur qui ? Le gouvernement se débarrasse de Stavisky en le faisant abattre à Chamonix. La thèse officielle du suicide est battue en brèche par de nombreux témoignages contradictoires. Le gouvernement de Camille Chautan, président du Conseil, est au début d'une crise politique sans précédent. Le scandale a d'importantes répercussions politiques lorsque l'opinion apprend les liens qui lient Stavisky à certains parlementaires en vue. Parce que Stavisky était juif, influent et escroc, l'extrême droite dénonce les compromissions de M. Alexandre et ses amitiés jusqu'au sommet de l'État qui lui permettaient de s'enrichir à millions. Ces révélations attisent la rancœur des Français qui descendent dans la rue. La presse dévoile les noms des relations de Stavisky dans la police, la justice et le monde politique. On remonte jusqu'au beau-frère du président du Conseil des ministres, Camille Chautan. Les arrestations s'enchaînent et les manifestations prennent une ampleur sans précédent. Voilà que le garde des Sceaux démissionne, suivi le 27 janvier 1934 de Chautan lui-même. Édouard Daladier, réputé pour son intégrité, lui succède. Aussitôt, il révoque Jean Chiap, le préfet de police. Cette décision met le feu aux poudres car le préfet est un sympathisant d'extrême droite. Daladier doit alors faire face le 6 février 1934 à une manifestation qui prend un tour politique car les ligues d'extrême droite s'en emparent pour appuyer leurs revendications anti-parlementaires. Elle montre du doigt la compromission des hommes politiques qu'elle traite de voleurs et d'assassins. L'Action française, rejointe par les Croix de Feu, accuse le gouvernement d'avoir fait traîner l'enquête. D'autres groupuscules proches du Parti communiste protestent contre les scandales financiers, mais également contre le refus du gouvernement d'augmenter les pensions des anciens combattants. La manifestation se transforme en émeute qui fait 16 morts et 600 blessés du côté des manifestants, 1600 du côté des policiers. Le lendemain, Édouard Daladier démissionne lui aussi. Le pouvoir est dans la rue. Gaston Doumergue, ancien président de la République, lui succède à son tour. Il doit faire face à une autre manifestation violente le 9 février. Elle fait 3 morts et plus de 500 blessés. Les manifestations se poursuivent jusqu'au 12 février, c'est la grève générale. La capitale est paralysée, mais le gouvernement Doumergue tient bon. L'affaire Stavisky se termine par un procès qui s'ouvre en janvier 1936 devant la cour d'assises de Paris, en l'absence du principal accusé, bien sûr. Il compte 250 témoins et 50 avocats pour 20 inculpés. 9 d'entre eux sont condamnés, dont 2 parlementaires, Gaston Bonnord, député de Paris, et Joseph Garat, député maire de Bayonne.
15h, 16h, au cœur de l'histoire, sur Europe 1.
Virginie Giraud.
Vous écoutez toujours au cœur de l'histoire sur Europe 1. Le récit que je m'apprête à vous raconter est fou. C'est l'histoire d'une poignée d'officiers qui voulaient tuer Hitler pour sauver l'Allemagne. Et ils ont bien failli réussir. Nous sommes le 20 juillet 1944, dans l'un des quartiers généraux d'Hitler, à la Wolfschanze, le repère du loup situé près d'un bois en Prusse orientale, aujourd'hui en Pologne. Le bunker du Führer est en travaux. La réunion de l'état-major se déroule donc dans un cabanon. Klaus von Stauffenberg, le chef de l'état-major attaché au commandement de l'armée de réserve, entre dans la pièce. Il la balaye du regard et tente de dissimuler son agacement derrière un masque d'impassibilité. Les fenêtres sont ouvertes. Cela réduira la puissance de la déflagration. Et surtout, il y a une table en bois monumentale. Elle ne repose pas sur quatre pieds comme une table normale, mais sur deux blocs épais qui, eux aussi, réduiront l'onde de choc. Il s'avance vers cette table imposante autour de laquelle se réunissent une vingtaine de militaires. Stauffenberg joue discrètement des coudes pour venir se positionner près du Führer juste à sa droite. Avec les trois doigts qui lui restent, il serre la poignée de sa mallette avant de la poser calmement sous la table entre les deux pieds gigantesques qui soutiennent le plateau. La réunion commence. On déploie des grandes cartes sur la table pour étudier les mouvements des troupes et adapter leurs déplacements sur les différents fronts. Stauffenberg prétend avoir un coup de téléphone urgent à passer et quitte la pièce avec son aide de camp. Le colonel Brandt profite de la place laissée vacante par Stauffenberg pour se rapprocher d'Hitler et mieux voir les cartes. Alors qu'il se penche pour les observer, son pied heurte une mallette sous la table. Il la déplace négligemment de l'autre côté du grand pied monolithique et l'éloigne d'Hitler. Au bout de quelques minutes, l'un des officiers présents s'étonne de ne pas voir revenir Stauffenberg. À ces mots, Hitler lève le nez des cartes. Ses yeux s'arrondissent. Au moment où l'officier s'interroge, Stauffenberg est déjà en train de passer les checkpoints qui permettent de quitter la Wolfschanze. Il est calme, personne ne songerait à l'arrêter. Soudain, il entend une déflagration dans son dos. Sa bombe a explosé. Hitler est mort. Il ne lui reste plus qu'à rentrer à Berlin et à lancer l'opération Valkyrie. Klaus von Stauffenberg ressemble à un prince prussien. Grand, châtain, svelte et athlétique, il est le digne héritier d'une famille allemande aristocratique dont l'aïeul s'est autrefois battu contre Napoléon. Pour lui, œuvrer à la grandeur de l'Allemagne est un devoir propre à sa classe. Voilà pourquoi il intègre l'armée dès ses études terminées en 1926. Il fait même partie des derniers bataillons de cavalerie, ce qui garde une vision romantique et héroïque de la guerre, comme s'il n'avait pas tout à fait pris conscience que les tanks et l'aviation avaient déjà révolutionné les champs de bataille. Pendant la République de Weimar, durant laquelle les mœurs se relâchent, pendant que les Berlinois dansent dans les cabarets les plus avant-gardistes, Klaus von Stauffenberg fréquente ce qu'il reste de l'élite aristocratique conservatrice, ces gens dont les racines culturelles enlacent les contes germains pluriséculaires, Goethe et Wagner. À 22 ans, il se fiance à une jeune fille de son rang, Nina, à peine sortie de l'adolescence. Mais elle partage son amour de l'Allemagne et de la poésie. Ils forment un couple heureux et bientôt une famille traditionnelle avec 4 enfants. Mais Klaus n'est pas souvent auprès des siens. Il sert son pays. Klaus von Stauffenberg a donc juré obéissance à Hitler, comme tous les soldats et les officiers de la Wehrmacht. Hitler sait qu'il se prémunit ainsi d'un éventuel putsch. En 1939, Stauffenberg participe à la campagne de Pologne, celle qui fait entrer l'Europe en guerre par le jeu des alliances. L'invasion est extrêmement violente. À ce stade, Klaus von Stauffenberg est convaincu d'agir pour le bien de l'Allemagne. Dans ses lettres à sa femme, il exprime son mépris pour ses peuples inférieurs. Il trouve normal de les réduire en esclavage pour les faire travailler dans les champs du Grand Reich. À cette époque, Stauffenberg tisse des amitiés parmi les officiers opposés au nazisme, mais qui souhaitent gagner la guerre pour l'Allemagne. Parmi les hommes qui se méfient du Führer, il y a le général Friedrich Olbricht, le chef du bureau général de l'armée. Il fait partie de ceux qui ont imaginé l'opération Valkyrie. L'opération Valkyrie, c'est un plan d'urgence permettant de garantir la continuité de l'État et des actions gouvernementales en cas de grave soulèvement de la population, de mutinerie ou même du décès d'Hitler. Dans un second temps, ce plan permet de désarmer les SS, le corps d'armée des nazis, et de confier le pouvoir de manière légitime à l'armée territoriale de réserve allemande, qui aurait même la capacité à destituer le gouvernement civil. En d'autres termes, le plan d'urgence Valkyrie est un outil de coup d'État mis au point par des ennemis d'Hitler en lui faisant croire qu'il garantira la continuité du pouvoir en cas de catastrophe. Et Hitler valide lui-même la création de cette opération nommée Valkyrie en l'honneur de ces déesses guerrières nordiques qui emmenaient les âmes des héros tombés au champ d'honneur au paradis. C'est accessoirement aussi le nom d'un opéra de Wagner et on connaît l'admiration d'Hitler pour ce compositeur. La seule personne à pouvoir donner l'ordre d'application de l'opération Valkyrie est le colonel général Friedrich Fromm, le chef de l'armée de terre de réserve depuis 1938. Un homme qui refuse de participer à un coup d'État malgré son antipathie pour le Führer. Il faudra donc lui forcer la main en temps utile en assassinant Hitler. Quelques semaines plus tard, les troupes allemandes sont toujours en opération en Afrique du Nord malgré la mise en garde de Rommel. C'est là que le régiment de Stauffenberg est attaqué par l'aviation alliée. Il perd son bras droit, deux doigts de la main gauche et l'un de ses yeux. Il est désormais convaincu que, s'il a eu la vie sauve, c'est pour accomplir une mission bien précise. Débarrasser l'Allemagne d'Hitler. Sur ces entrefaites, le Führer a échappé au printemps 1943 à deux attentats à la bombe comme s'il était protégé par le diable en personne. Mais les conjurés n'ont pas dit leur dernier mot. En tant que blessé de guerre, Stauffenberg ne peut plus servir au front. Il obtient un poste de chef d'état-major au Bendlerblock, un complexe militaire à Berlin. Là, il se rapproche d'Olbricht, l'un des artisans de l'opération Valkyrie, du colonel Merz, ainsi que d'autres officiers opposés à Hitler. En tant que chef d'État au Bendlerblock, Stauffenberg est souvent invité à des réunions militaires en présence d'Hitler. Ce 20 juillet 1944, il part en avion dans le repaire du Loup, l'une des tanières d'Hitler en Prusse orientale. La réunion réunit une grosse vingtaine de personnes dans un cabanon aux fenêtres ouvertes munies d'une table monumentale. Avant de commencer la réunion, Stauffenberg casse un tube de verre qui contient un acide qui ronge la gaine d'un détonateur et il le plante dans une charge explosive cachée dans sa mallette. La bombe devrait exploser entre 12h40 et 12h50, c'est-à-dire dans moins de 20 minutes. La mallette est abandonnée sous la table de réunion. Stauffenberg et son aide de camp quittent la pièce sous prétexte de passer un coup de téléphone. Le colonel Brandt déplace la mallette derrière le gros pied de la table pour se rapprocher du Führer. L'un des officiers se demande où est passé Stauffenberg. En entendant ces mots, Hitler redresse la tête. Il comprend immédiatement ce qu'il se passe. Il sort précipitamment de la pièce juste avant que la déflagration ne souffle le cabanon. Il s'en sort avec quelques égratignures. Dans la salle de réunion, il y a plusieurs blessés légers et graves, ainsi que 4 morts. Stauffenberg vient de passer les checkpoints du repère du Loup quand sa bombe explose. Il est convaincu d'avoir tué Hitler. Il rejoint l'aéroport et s'envole précipitamment pour Berlin afin de lancer l'opération Valkyrie. Pour plus de sûreté, il sait que des complices ont saboté les moyens de communication du repère du Loup. Vers 16h, Olbricht commence à passer quelques coups de fil à la police pour signaler les débuts imminents de l'opération Valkyrie. À 16h30, il se rend au Bendlerblock avec le colonel Merz, Klaus von Stauffenberg, et son aide de camp, l'Oberlieutenant von Hoften. Dans ce moment décisif, l'information circule mal. Certains conjurés ont appris que Hitler avait survécu à un attentat. Il semble que Stauffenberg l'ignore encore. Il affirme à Friedrich Fromm, le chef de l'armée de réserve, qu'il a tué Hitler et qu'il doit lancer l'opération Valkyrie. Fromm résiste à Stauffenberg et à Olbricht en affirmant que le Führer est toujours vivant. Il s'ensuit alors un moment de confusion où les conjurés et les officiers fidèles tentent de se mettre respectivement en état d'arrestation. C'est finalement le colonel Merz qui envoie des ordres régionaux pour lancer l'opération Valkyrie. En plusieurs endroits, y compris à Paris, les officiers de la Wehrmacht commencent à organiser l'arrestation des membres de l'ASS et de la Gestapo. À Berlin, l'armée tente d'occuper des points stratégiques comme certains ministères. Mais les chaînes de commandement fonctionnent mal et les rouages de l'opération Valkyrie se grippent à plusieurs niveaux. Pendant que la tension monte au Bändlerblock, Hitler a déjà soigné ses égratignures et reçoit, comme prévu, Benito Mussolini venu lui rendre visite. Avec un cynisme consommé, il lui fait visiter les ruines du cabanon où la bombe des conjurés a explosé. À partir de 16h, une fois les moyens de communication rétablis dans le QG d'Hitler, une série de messages sont envoyés dans toutes les institutions militaires et civiles pour signaler l'attaque à l'encontre d'Hitler et sa survie miraculeuse. Le QG rappelle à chaque destinataire qu'il est interdit d'obéir aux ordres des conjurés. Partout en Allemagne, la Wehrmacht et les SS célèbrent en commun la bonne nouvelle et réaffirment ensemble leur volonté de servir le Reich. Au Bändlerblock, l'armée se retourne contre les officiers conjurés. Dans la soirée, ils sont désarmés. On conseille à Stauffenberg de se suicider tant qu'il le peut encore, mais l'officier refuse. Quelques heures plus tard, Hitler fait un discours sur les ondes. Il jette l'opprobre sur une petite clique de soldats ambitieux et promet des châtiments exemplaires. Il est maintenant un peu plus de minuit. Fromm a repris le contrôle du Bändlerblock et veut se débarrasser au plus vite des conjurés. À défaut de les avoir aidés, il connaissait leur projet et il vaut mieux que la Gestapo ne le découvre jamais. Il constitue donc une cour martiale d'urgence et condamne à mort Olbricht, Merz, Bonneften et Stauffenberg. Les quatre condamnés sont descendus dans la cour de l'immeuble et alignés dans la lumière crue des véhicules militaires. Ils sont fusillés l'un après l'autre. Avant de mourir, Stauffenberg crie « Vive la Sainte Allemagne !» Puis il s'écroule sur un tas de sable souillé de sang. La répression qui s'ensuit est sanglante. Il y a plusieurs milliers d'arrestations. Une parodie de justice se met en place. Certains hauts gradés sont condamnés à la pendaison à une corde de piano, dernier raffinement de sadisme nazi. Erwin Rommel, quant à lui, est contraint de se suicider en octobre 1944, car il connaissait bien certains conjurés et était favorable à une négociation de paix secrète avec les Alliés. Les nazis prétendent qu'il est mort de cause naturelle et lui donnent des funérailles nationales pour des questions de propagande. Nina, l'épouse de Stauffenberg, est arrêtée alors qu'elle attend son cinquième enfant. Elle séjourne à Ravensbrück alors que ses petits sont placés dans un orphelinat. On envisage de les faire adopter par de bonnes familles nazies pour les rééduquer et leur faire oublier jusqu'au nom de leur père. Mais Hitler précipite effectivement l'Allemagne dans l'abîme. Il se suicide le 30 avril 1945, après l'avoir laissé exsangue. Le pays passe sous contrôle allié. Nina Stauffenberg retrouve ses enfants qui lui donneront plus de 30 petits-enfants. Le nom d'Hitler est gravé à jamais dans l'histoire, mais celui de Klaus von Stauffenberg reste dans son ombre. Il est désormais le symbole de la résistance de l'armée allemande contre le Führer. Au cœur de l'histoire, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous retrouve dès demain pour des récits fantastiques où il sera question de vampires et de monstres. Bienvenue dans la littérature fantastique du 19e siècle, ou plutôt dans la vie de leurs auteurs, Bram Stoker et Mary Shelley. Et puis je recevrai aussi le médecin légiste de l'histoire, Philippe Charlier, qui viendra nous parler des vrais vampires.
La suite du programme sur Europe 1, Françoise Hardy pour la musique, avec sa chanson L'Amitié, un titre sorti en 1965. Et puis juste après, on se replonge dans la libre antenne de ce début de semaine avec l'ami Olivier Delacroix. Des témoignages, des confidences, donc à redécouvrir. Bonne nuit à tous.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras. Tu pourras repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages, donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne.
Elle a définitivement tiré un trait sur sa carrière, mais elle a quand même été sensible à l'hommage que lui a rendu il y a quelques mois le magazine Rolling Stone. Effectivement, Françoise Hardy était quand même la seule Française classée parmi les 200 meilleurs artistes de toute l'histoire. Et on vient d'écouter L'Amitié. Ambiance confidence, à présent au micro d'Olivier Delacroix, c'est l'heure de la libre antenne d'Europe 1, l'heure de se remémorer quelques témoignages en toute amitié.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Bonsoir Daniel.
Bonsoir Olivier.
D'où nous appelez-vous Daniel et quel âge avez-vous ?
Je réside en région parisienne et là je vous appelle de la Bretagne. J'ai 66 ans et je suis en route pour le Grand Large.
Comment ça vous êtes en route pour le Grand Large ? Expliquez-moi ça.
J'ai fait un arrêt à Brest. Je salue l'auditeur de, je crois que c'était jeudi soir, Alain, le Brestois, qui nous avait fait un superbe témoignage sur sa vie.
Oui, sur la résilience d'Alain, quelqu'un...
Oh là là, c'était merveilleux.
Il est formidable, c'était formidable.
Formidable. Hasard du calendrier, ça fait quand même un mois que j'ai prévu d'aller au large de Brest, dans une île que vous voyez. Et quand je l'ai entendu, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça aurait été bien de le rencontrer, mais bon, on le verra peut-être une autre fois.
On pourra vous mettre en rapport avec lui, hein, si vous le désirez. Si vous êtes
éventuellement, vous pourrez lui laisser mon téléphone, parce que je vais partir et je vais revenir en fin de semaine à Brest. Demain matin, je prends le bateau pour une superbe île.
Mais alors, donnez-nous le nom de cette superbe île, Daniel. Vous êtes,
je pars à Ouessant.
À Ouessant, d'accord, très bien. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ?
Mais alors, Olivier, je vous remercie parce que vos témoignages sont bouleversants, intéressants, et vous avez beaucoup de chance. Parce que franchement, Olivier, je veux pas, comme on dit crûment, hein, vous passer de la brosse à reluire, mais vous avez tout. Vous avez un look, je vais vous le dire. Vous avez une voix, ça c'est important, hein, parce que personne, pour faire votre émission, il faut avoir une voix. Vous êtes vraiment la bienveillance même. Et aujourd'hui, on en a grandement besoin, Olivier.
Plus que jamais, mon cher, plus que jamais, vous avez raison.
Et ce soir encore, Simone, handballeuse à Massy, et alors le hasard du calendrier, j'ai travaillé très longtemps à Massy.
Oui.
Et j'ai moi-même pratiqué le handball, mais pas à son niveau. Donc vraiment, ça m'a... Est-ce qu'elle vous a dit, je connais par cœur ce problème des anciens sportifs, parce que j'ai plein d'amis à moi qui ont été professionnels, et vraiment, c'est important. Moi, je voulais vous parler de la vie, pas de moi. Moi, Daniel, c'est pas important. Je voulais vous parler de la vie. Je vais faire assez court.
Prenez votre temps, on a du temps.
Des chocs que l'on traverse au cours de son existence, de sa vie.
Oui.
Et j'espère que vous allez pouvoir m'aider, j'en suis sûr.
Je vous écoute, hein, Daniel. Alors, vous me parlez de quel type de choc, en fait ?
Je pense que tout le monde, vous voyez, Simone, Alain, tous nos auditeurs ont eu un choc. Des chocs, je ne dis pas des échecs, je dis des chocs dans la vie.
Des épreuves.
Moi, j'en ai eu des tas, mais pas moi. Et je pourrais vous parler de quand j'étais enfant, quand mes parents se disputaient, quand ils m'ont envoyé en pension, quand ils ont divorcé. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
J'arrête. Ça, c'est des chocs.
Mmh.
On les vit. Mais je vais vous parler de trois chocs. Je pense qu'on en a tous une dizaine dans la vie, des gros chocs. Hein.
Pourquoi une dizaine ?
Parce qu'on ne les perçoit pas, mais on en a à peu près un tous les 10 ans.
D'accord.
J'ai gardé à peu près, j'ai regardé beaucoup de gens. C'est un peu comme, si vous me le permettez, les tremblements de terre, il y a un gros choc sur l'échelle de Richter, pour ne pas la nommer. Et puis après, vous avez des secousses qui sont de plus en plus faibles. Une secousse de 6, quand il y a un grand... Vous savez que, par exemple, le plus grand tremblement de terre, je crois que ça a été à Haïti où il y a eu 300 000 morts.
Mmh.
Après, il y a eu une dizaine de secousses, des répliques, comme on dit, de plus en plus faibles. Et qui font peur quand on les a, parce qu'on se dit, oulala. Et ben dans la vie, c'est l'inverse. La première secousse, elle est petite. La deuxième, elle est un peu plus grosse.
Oui.
La troisième, elle est encore plus grosse. Et la dixième, elle est alors énorme.
Ah bon ?
Et vous D'accord, savez, quand j'ai eu ma dixième, Olivier ?
Oui.
Mais vraiment, le choc, le bing-bang, Olivier. Je l'ai eu le 15 avril 2019.
D'accord, le 15 avril 2019, le jour où Notre-Dame a brûlé.
Exactement.
Mais
tout le monde en parle aujourd'hui.
Oui.
Ce jour-là, je ne vais pas vous lire mon compte rendu opératoire, il fait 2 pages.
Mm-hmm.
J'étais dans un hôpital de l'assistance publique des hôpitaux de Paris,
oui.
On ne peut pas les nommer, ils ont 26 hôpitaux, vous les connaissez, et je salue, je remercie, j'embrasse tout le personnel des hôpitaux qui m'ont sauvé la vie. Parce que le 15 avril 2019, moi aussi, j'ai failli, trépasser.
Que vous est-il arrivé ?
Eh bien, le 15 avril 2019, j'ai eu ma troisième opération ce jour-là.
Oui.
Une grosse opération. Une hémorragie digestive que je ne souhaite à personne.
Mais c'était comme ça
C'était la troisième, parce que la première, faite par un grand professeur que je n'aimerais pas, mondialement connu, je suis reparti au bout des 6 jours.
Oui.
Et puis après, je suis revenu par les urgences. Et là, il a dit, voilà, qu'est-ce qui arrive à Daniel ? Je vais m'occuper de lui. Il m'a retourné pour la deuxième fois. Et là, ils m'ont gardé 3 mois. Et j'ai eu 8 opérations, Olivier, en 2 mois.
D'accord. C'était dû à une fragilité de quoi ? Du tube digestif
Vous savez, dans la médecine, vous le savez, je ne suis pas le seul. Hein. Moi, c'était sur l'appareil digestif, vous savez qu'on dit que c'est le deuxième cerveau humain. On va dire que ça commence à l'ésophage et ça finit, je crois que c'est au rectum. Bon, moi, c'était quelque chose entre tout ça.
D'accord.
Et puis voilà, bah, donc ça a été le choc terrible. Et alors, à partir de là, tout, non pas c'est cool, parce que mon appel, c'est pour nos auditeurs libres, les gens, ils le savent, on s'en remet toujours, même si on s'en remet lentement. Mmh.
Mais vous vous en êtes remis, vous, Daniel ?
Je sais pas.
Comment ça, vous ne savez pas ?
On ne sait pas parce que il y a plein de conséquences. Quand vous êtes opéré lourdement, il y a des effets, on va dire comment, collatéraux, secondaires, je ne sais pas comment on dit. Parce que ça remonte après, hein. Ça peut remonter jusqu'au cerveau, hein.
Oui.
C'est-à-dire que ça vous choque.
Oui.
Un peu comme un sportif, hein, Simone avant, ses blessures, elles portent, hein.
Bien sûr, mais là, si vous voulez, dans votre cas, vous dites que vous avez été comme abandonné au bord de la route, comme c'est souvent le cas quand on est malade. Est-ce à dire que quand on vous annonce que vous allez être opéré à nouveau, on se sent très seul, là, on est face à la mort. Mais... On est face à la mort,
oui,
en
oui.
gros.
Oui, mais si vous voulez, ça, c'est le jeu, si je puis dire, c'est... On le comprend, et les soignants font un énorme travail, et je les remercie encore jamais, mais je les remercierai jamais assez. Mais si vous voulez, c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est quand vous sortez de l'hôpital, là, vous êtes tout seul. Hein.
Oui.
Et quand vous êtes à l'hôpital, c'est bien. Et quand vous sortez, parce que vous savez que vous allez revenir. Hein. Parce qu'après, vous êtes suivi, vous avez des contrôles, 6 mois, 1 an après, voilà. Mais enfin... Voilà, je vous ai parlé de ce choc qui est énorme. C'est le Big Bang. Échelle de Richter, c'est le 8 de magnitude. Celui-là, il fait très mal.
Oui, d'accord.
Et plein d'autres ont ça. Mais des tas de gens l'ont. Donc je ne suis pas le seul. On est des millions en France, sur le monde, sur la planète, à être opérés. Et on sait qu'un jour ou l'autre, il faudra y retourner. Donc il faut. On a 2 solutions. La bonne ou la bonne,
ça veut dire quoi? Dites-nous.
Eh bien, il faut prendre la bonne solution.
Mais on n'a pas vraiment le choix. C'est ça que vous voulez
Exactement.
Dire
Exactement. Mmh. Exactement. On n'est pas vraiment maître de son destin.
Vous avez été opéré 8 fois en 1 an.
J'ai été opéré 8 fois. J'ai été opéré 7 fois. En 2 mois.
Oui.
Et après, quand vous êtes opéré comme ça, on a, excusez-moi l'expression, tous les soignants, s'il y en a qui écoutent et des sommités qui écoutent, on remet le circuit après. Mais le circuit, on le remet au bout d'un certain temps. Alors, en général, le circuit, on le remet entre 3 et 6 mois. Moi, j'ai eu de la chance qu'on me l'a remis au bout de 13 mois. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Mm-hmm. Parce que moi, j'avais des complications. Donc, le circuit, ça a été plus long. Donc les conséquences, les chocs, les petits chocs, les parachocs, les aftershocks sont plus longs.
D'accord.
Et donc en fin de compte, c'est aussi dur. Mais bon, mais on en a d'autres dans la vie. Mais par contre, il faut se rappeler, dans ces moments-là, quels ont été les bons moments. Mmh.
Mais vous m'avez dit avoir 66 ans.
66, oui.
Oui, tout cela vous arrive en 2019, le gros hein, des oui. opérations.
Oui.
Avant ça, vous n'aviez jamais eu de problème de santé ? Vous étiez plutôt en forme ?
J'ai eu des petits pépins en 2010. Je fais le marathon de New York.
Oui, vous êtes sportif en plus et tout, quoi. Incroyable.
Au départ, je rencontre, je peux le citer, un ancien joueur de tennis, le Salut français, un très connu. Moi, j'étais j'étais dans le 10%. Hein. Oui. Quand il y en a 100, j'étais 10e. Quand il y en a 10, j'étais centième, j'étais dans le 10%. Et à la sortie du marathon de New York, que j'ai fini bien, mais péniblement, deux mois après, j'ai eu une grosse opération, mais pas celle que j'ai eue en 2019, mais pas rigolote non plus. Et en 2010, là, je vais voir un médecin, il me dit « Mais vous avez ça depuis quand ?» Je lui dis « Depuis quelques temps. » Il me dit « Vous allez aller tout de suite. » Et là, je suis allé, pareil, à PHP, dans un grand hôpital. C'était pas le même, c'était pas bébé. Le nom des hôpitaux, je les appelle bébé.
Pourquoi là, vous les appelez bébé ? Je comprends pas.
Parce que, c'est, si vous voulez, c'est... Les deux hôpitaux commencent par B et par B.
Ah, d'accord.
Donc, si vous voulez, pour ne pas les nommer, quoi.
D'accord. Mais vous pouvez les nommer, quand même. Vous pouvez les nommer.
Pardon ?
Vous pouvez les nommer, ça ne pose aucun problème.
Ah, oui, non, mais c'est des très bons hôpitaux, mais je veux dire, bon, c'est Beaujon pour ne pas le nommer, quoi.
D'accord. Mais vous êtes resté longtemps, ensuite, à l'hôpital ?
Ah, ben, je suis resté... de moi, et puis après un an après, je suis resté encore presque un mois, et puis j'ai des visites de contrôle encore de temps en temps. Quoi.
D'accord.
Mais si vous voulez, Olivier, il faut revenir à tout ce qu'on a vu précédemment et toutes les rencontres qu'on a pu faire. Et là, je me suis dit peut-être que je pourrais vous parler de ça. En 79, c'est encore un œuf. Là, je suis jeune et moulu. Je travaille dans une grande entreprise. Et là, ce jour-là, je vois débarquer un gars qui est très connu, qui est de passage à Paris, qui descend au Georges V. Pas au Georges V comme sa bande, mais qui sort au Ritz.
Oui.
Et puis, je l'ai rencontré quelques temps. Et vraiment, c'est des moments auxquels je pense tout le temps aujourd'hui. Vous savez, quand on a des périodes difficiles, on revient sur le passé et on se remémore les moments flash qu'on a eu à rencontrer des gens... qu'on a rencontré, qu'ils soient célèbres ou pas, hein, mais ça a été des moments de lumière.
Et qui est cette personne, alors ?
C'est Keith Richards.
Keith Richards ? Ah oui, vous l'avez rencontré, dites donc, incroyable.
Incroyable.
Et vous l'avez...
En 1979, ils sont en pleine gloire. Ils sont interdits de séjour en France.
Oui.
Ils ont guidé toute ma vie comme je suis pas musicien, mais j'adore la musique comme vous.
Mmh.
Mais moi, je suis pas comme vous, musicien. J'ai pas ce don que vous avez de la musique, mais j'aime la musique. Et ça a été l'une des premières grandes rencontres de ma vie. Je l'ai vu 2 heures, mais vraiment.
À l'hôtel, vous l'avez vu ou vous l'avez vu?
Non. Alors, ce jour-là. Il est de passage à Paris à l'hôtel Ritz parce que je crois qu'il fait un disque en solo déjà.
Oui.
Et en fin de compte, il a un compte dans une agence d'une grande banque que je nommerai pas sur la Côte d'Azur. Et il fait un retrait déplacé. Ça s'appelait à l'époque où vous mettez à votre disposition de l'argent dans une autre agence. En cash, en francs, il fallait l'accord de la banque. Et vous veniez à la banque pour de l'argent.
D'accord.
Ça s'appelle un retrait cash déplacé. Tous les anciens de la banque se rappelleront. Et moi, j'étais sous-directeur de cette banque. Et à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait des fax. Il y avait le téléphone, il n'y avait pas de portable. Et je reçois un fax, monsieur Keith Richards va passer à votre agence, retirer un peu d'argent.
Incroyable.
Daniel, il y a ton pote qui passe à l'agence. Tu veux le voir? Parce qu'à l'époque, les Rolling Stones, ils faisaient un peu peur. C'était la grande joie, mais je veux dire, Rappelez-vous, vous qui connaissez mieux que quiconque la musique, il y avait les Rolling Stones et les Beatles. Hein. Donc il y avait les gentils et puis les rockers, quoi. Donc, à l'époque, j'ai eu la chance de le rencontrer.
D'accord.
Et vraiment, j'ai trouvé que c'était bien.
Bon, et revenons-en à aujourd'hui. Alors, vous allez faire quoi, là, à Ouessant ?
Eh bien, je vais respirer. Je vais regarder au large. Je vais passer quelques jours pour profiter de la vie, pour vous écouter, pour faire du vélo et pour rencontrer des gens.
D'accord. Et vous c'est la première fois que vous y allez à Ouessant ?
Alors à Ouessant, c'est la première fois. Je connais pas mal la Bretagne parce que quand j'étais jeune, j'allais sillonner quand je faisais des colonies et des camps d'ado, je sillonnais la Bretagne. Tous les ans, je vais en Bretagne depuis longtemps. Et là, je vais à Ouessant où je suis jamais allé. Je suis allé à l'île de Saint, mais jamais à Ouessant.
D'accord. Bon, bah super. Donc vous allez respirer, faire du vélo et rencontrer des gens. Ça, c'est un beau programme. Parfait.
C'est un programme intéressant.
La santé va bien aujourd'hui ?
Écoutez, la santé, ma réponse, quand on me demande toujours, je dis ça suit son cours.
Mais ça suit son cours, c'est-à-dire alors ?
C'est comme le fleuve, il continue son cours.
Donc vous êtes en forme quand même ? Vous avez récupéré
Je suis plutôt en forme, moralement je suis en forme, mais bon, c'est comme Simone avant, c'est comme tous les gens qui ont eu...
Des chocs, comme vous disiez.
Des chocs ?
Oui.
Eh bien c'est... Il y a toujours quelque chose, tous les jours. Hein.
Mm-hmm. Comment on aborde justement la vie ? Comment on la regarde la vie quand on a... subi des chocs comme vous, des opérations multiples comme vous, quand on a frôlé la mort, hein, clairement.
Ouais. On l'a dit clairement parce qu'on est venu. Vous savez, Olivier, en 2019, après ces opérations-là, bon, tous les soirs, les gens qui connaissent les hôpitaux le savent, vous avez le professeur avec toute son équipe qui vient vous voir tous les soirs. C'est pas tous les deux, c'est tous les soirs. Ils font un petit rapport, alors ça va, etc. Et puis, on discute, on échange, hein, dans la mesure du possible. Et puis, le lendemain matin, en général, le professeur, avant d'aller au bloc, il passe une tête, il échange avec vous, il parle, il essaye de savoir si vous allez bien et tout. Et ça... Toujours, 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 on y pense, quoi.
Oui. Tous les jours, vous y pensez ?
Tous les jours, c'est, si vous voulez, c'est... Alors, le dimanche, on y pense parce que le dimanche, c'est... Si vous voulez, quand le dimanche matin, quand je prends mon café, je demande à ma femme qu'elle m'achète un croissant parce que dans les hôpitaux, le dimanche matin, vous avez le droit au croissant.
D'accord.
Et vous ne savez pas à quel point ça nous fait du bien. À quel point ces gens sont humains, les soignants, les aides-soignants et le personnel hospitalier.
Oui.
Parce que vous apportez un croissant le dimanche matin avec un jus d'orange et un café et que vous regardez le ciel quand vous arrivez à le voir et qu'il fait beau, c'est bien.
Je veux bien vous croire, je veux bien vous croire. Mais donc aujourd'hui, vous regardez la vie chaque jour, en fait, c'est comme un nouveau cadeau, si je comprends bien.
C'est un nouveau cadeau, c'est vrai. Et c'est pour ça que il faut avancer, il faut avoir des objectifs. Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, quand j'ai eu ce choc, ça a été un choc physique. Une opération, c'est physique, c'est clair. C'est mental, mais ça a été après que j'avais réussi mon rêve. Parce que quand j'ai fini de travailler, j'avais un rêve, c'est de reprendre mes études. C'est un peu fou, hein. Je suis pas le seul, je sais, mais c'est rare.
Oui, c'est rare, mais bon, c'est un beau projet.
Voilà. Alors j'avais repris mes études dans une université je voulais pas reprendre parce que je travaillais sur un sujet un peu ardu économique, donc mais j'ai fait un doctorat.
Vous étiez dans la banque, hein, vous, Daniel?
Oui, ouais, moi j'étais dans une grande banque, mais le sujet n'avait rien à voir avec la banque, c'était un sujet économique. Si vous voulez.
D'accord.
C'était un sujet sur la... Excusez-moi, hein, je vous le dis, mais bon, c'est pas très intéressant, mais c'était sur la politique monétaire aux États-Unis.
D'accord.
Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Donc, j'aime bien l'aspect monétaire. Et c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est l'aspect monétaire.
Oui.
Comment ça marche et quels sont les... Parce que là aussi, on parle de choc économique. Et comment ça fonctionne. Donc, depuis 40 ans, j'ai étudié ça. Et quand... vous savez, quand on travaille... on est pris par le travail.
Oui, et on n'a pas le temps trop d'apprendre les choses.
Et on n'a pas le temps.
Non.
Alors, je m'étais dit, je trouverai le temps.
Bon, très bien. Très bien.
Voilà
un bon programme, en tout cas, pour les jours à venir, mon cher Daniel. Et merci de nous avoir appelés ici sur l'antenne d'Europe 1 et de nous avoir fait signe. Et puis, portez-vous bien. Bon Ouessant. Bon Ouessant, Daniel.
Et à très bientôt.
À très bientôt.
Je vous écoute encore plus que jamais.
Merci beaucoup. Au revoir, Daniel.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Nous accueillons maintenant Zoé sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir, Zoé.
Bonsoir.
D'où nous appelez-vous, Zoé, et quel âge avez-vous ?
J'ai 57 ans et j'appelle de Perpignan.
De quoi voulez-vous me parler ?
Du meurtre, en fait. Tout a été mis en scène pour faire croire à un suicide. Et effectivement, au fur et à mesure qu'on avance, à petits pas, en fait, c'est un crime.
Alors, reprenons ça depuis le début, hein, si vous le voulez bien, Zoé. Votre fille est décédée en quelle année ?
2019.
2019, et dans quelles circonstances, en fait, est-elle décédée ?
On l'a retrouvée pendue. Pendue, les pieds touchés le sol.
Oui.
Une seringue de ventus qui se trouvait au premier étage, alors qu'elle n'était pas diabétique. Certains effets personnels ont disparu de son sac et personne ne nous a prévenus.
Personne ne vous a prévenu, c'est-à-dire personne ne vous a prévenu de quoi ?
De la mort de notre fille.
D'accord. Personne ne vous a mis au courant ?
Non.
Comment l'avez-vous appris ?
Ni à moi, ni au papa. Ben, je l'ai appris par ma fille. Par mon autre fille.
D'accord.
Je n'ai pas voulu y croire pour la bonne raison qu'on devait descendre parce qu'elle avait des cadeaux. Elle finalisait des cadeaux. Voilà. Mmh. Elle devait remonter sur Nîmes parce qu'elle devait fêter le réveillon avec... ses collègues de Chambray,
oui.
À l'école de police. Et je peux vous dire, je peux vous certifier que depuis le début, même ses collègues, même moi, depuis le début, on sait très bien qu'elle ne s'était pas suicidée. Elle n'avait aucunement, elle n'était ni dépressive, ni suicidaire.
D'accord. Donc, au moment où elle perd la vie et qu'elle n'est pas suicidaire, la dernière fois que vous l'aviez vue avant, elle était comment ? Comment était-elle ?
Eh bien, justement, il y a deux jours avant, justement, elle finalisait les cadeaux. Elle était avec moi et sa sœur et elle devait remonter, rejoindre ses collègues de la police nationale.
D'accord. Donc, tout allait bien, en fait ?
Ah non, tout allait bien, oui. Tout allait bien.
D'accord. Donc, combien de temps après cette dernière rencontre, votre vie va-t-elle trouver la mort ? À peu près. Hein. Quelques semaines après ?
Bah écoutez, une semaine.
Une semaine.
Une semaine avant.
D'accord.
Ouais.
Alors, vous n'avez jamais cru hein, à cette...
Non.
Version.
Non, elle ne m'aurait pas laissé tomber pour la bonne raison qu'elle vivait chez moi.
Oui.
Et qu'en plus, je me bats, hein, depuis qu'elle était avec moi, ça faisait 3 ans pour le cancer.
D'accord, donc elle ne vous aurait jamais...